VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriac.
Bienvenue à l'édition du mercredi 23 septembre 2015. Plein feu sur l'actualité au Burkina Faso.
Le putsch est terminé au Burkina. C'est le général Gilbert Diendéré lui-même qui l'a annoncé.
Les autorités de la transition sont rétablies dans leurs fonctions à Ouagadougou, 6 jours après le coup d'état du RSP, garde prétorienne du leader déchu, Blaise Compaoré.
Le gouvernement de transition que vous avez librement choisi et en qui vous avez totalement mis votre confiance est resté le seul à incarner la volonté du peuple souverain.
Le président de la transition, Michel Kafanto.
Précédemment dans la journée, le premier ministre burkinabé Isaac Zida avait déclaré qu'il était inimaginable de conserver le RSP en l'état. Un point complet sur le Burkina Faso dans cette édition.
Visite historique aux États-Unis du premier pape latino-américain de l'histoire. Le pape François a été acclamé dans les rues de Washington après une réception officielle à la Maison-Blanche. Son message, son itinéraire, les réactions dans cette édition.
Ailleurs dans le monde, l'Union européenne annonce l'augmentation de son assistance aux migrants ayant trouvé refuge dans les pays voisins de la Syrie.
Le putsch est terminé au Burkina Faso. C'est le général Gilbert Diendéré lui-même qui le dit. On n'en parle plus, a déclaré le chef des putschistes. Le plus grand tort a été d'avoir fait ce putsch, a ajouté l'ancien bras droit de l'ex-président déchu Blaise Compaoré. Aujourd'hui, quand on parle de démocratie, on ne peut pas se permettre de faire des actions de ce genre. Le coup d'État s'est fait compte tenu d'un certain nombre de raisons que nous avons évoquées lors de la proclamation du putsch. Nous avons vu ce qui s'est passé, nous avons su que le peuple n'était pas favorable. C'est pour ça que nous avons tout simplement abandonné, a-t-il expliqué.
Le général s'exprimait ainsi dans la foulée d'une cérémonie à Ouagadougou, réinstaurant officiellement le régime de transition. Michel Kafando a donc été rétabli ce mercredi dans ses fonctions de chef d'État de la transition au Burkina Faso, en présence de plusieurs présidents africains représentant la CEDEAO. Le retour de M. Kafando et du Premier ministre Isaac Zida consacre l'échec du coup de force du 17 septembre, dirigé donc par le général Gilbert Diendéré. Les accords de la CEDEAO, a dit Kafando, n'engageront le Burkina Faso que s'il entre dans le cadre de la charte de la transition.
Mes chers compatriotes, dans le malheur, nous avons lutté ensemble. Dans la liberté, nous triomphons ensemble. À présent, libre de mes mouvements, je reprends du service. Et par là même, je m'affirme en la légitimité nationale. La transition est ainsi de retour et reprend à la minute même l'exercice du pouvoir d'État. L'a-t-elle d'ailleurs jamais perdu? Non, vu la clameur nationale contre les usurpateurs, vu la réprobation internationale contre l'imposture, c'est l'aveu même que le gouvernement de transition que vous avez librement choisi et en qui vous avez totalement fait votre confiance, mis votre confiance, est resté le seul à incarner la volonté du peuple souverain. Au demeurant, le président du Conseil national de la transition, M. Chérif Sy, agissant en intérimaire du président du FASO, a su garder la flamme intacte, je lui en sais gré. Je vous invite donc à rester mobilisés autour de la transition pour qu'ensemble nous continuions ce que nous avons commencé, à savoir remettre le processus électoral sur les rails après avoir naturellement pansé les plaies et honoré la mémoire de nos compatriotes injustement tombés pour la défense de la patrie et dont certains gisent toujours dans les morts.
Voilà, c'était le président Michel Kafando, rétabli ce mercredi dans ses fonctions de chef d'État de la transition au Burkina Faso.
Pour un point complet sur ces derniers développements, la correspondance de Zoumana Wonogo de Ouagadougou.
Le sommet d'hier a fermement condamné de nouveau le coup de force et renouvelé son soutien total à la poursuite de la transition civile au Burkina Faso. Le sommet a surtout demandé la restauration immédiate des institutions de la transition et le rétablissement du président de la transition dans ses fonctions de président du Faso.
Cette annonce a été chaudement applaudie et accompagnée par l'hymne national du Burkina. L'envoyé spécial de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, le président Yahi Bouni, a aussi insisté sur le dialogue inclusif entre les Burkinabés. Qu'en pense Zéphirin Diabré ? On écoute.
Nous n'avons jamais été contre le dialogue. Nous sommes adversaires résolus des autres qui ne sont pas de notre avis, mais nous sommes tous des Burkinabés. Si ce dialogue doit avoir lieu, mais c'est la transition qui va décider, nous sommes prêts à y participer et quand nous irons là-bas, nous ferons valoir nos positions sur les différents points qui seront évoqués.
Sarah Sérémé, candidate à la présidentielle, assure quant à elle que le dialogue n'a jamais été rompu. On l'écoute.
Nous n'avons jamais arrêté le dialogue au Burkina Faso. Au Burkina, toutes les réunions, nous l'avons toujours fait avec l'ancienne majorité. Nous n'avons jamais exclu personne. Et alors le dialogue continuera, mais dans le respect strict de nos lois et de nos textes.
Pour Roch Marc-Christian Kabouré, l'important, c'est la résolution de la crise militaire. Il explique.
Pour notre part, en tant que mouvement du peuple pour le progrès, nous ne pouvons pas enjamber des cadavres pour faire un compromis politique. Ça, au moins, c'est très clair. Il faut que, quelque part, justice soit rendue à ces 10 fils du Burkina qui sont tombés. Nous aimerions véritablement que cette situation nous permette de tourner la page du RSP et de travailler à la mise en œuvre d'une armée véritablement républicaine au service du peuple burkinabé.
Zouana Wounougou, Ouagadougou, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, à Ouaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
Le pape François s'est adressé aux évêques américains réunis à Washington, première étape de sa visite aux États-Unis. Le pape a abordé plusieurs thèmes. Le Saint-Père leur a demandé de faire en sorte que les cas de pédophilie qui ont ébranlé l'Église et causé la ruine financière de plusieurs diocèses ne se répètent jamais. Arrivé hier dans la capitale américaine, le pape a eu une rencontre privée ce matin à la Maison-Blanche avec le président Obama. Il a été acclamé par des milliers de personnes dans les rues de Washington et après, bien sûr, il a été rencontré les évêques en la cathédrale Saint-Matthew de la capitale américaine.
Le souverain pontife a appelé les évêques américains à accueillir sans peur les immigrants. L'immigration enrichit l'Amérique, a-t-il déclaré en saluant les œuvres caritatives de l'Église catholique en direction des immigrés. Le pape François a par ailleurs exhorté les évêques américains à l'unité entre eux avec Rome, car a-t-il dit, l'Église ne peut se laisser mettre en morceaux ou devenir l'objet de querelles.
Le président américain a chaleureusement accueilli le pape François devant près de 15 000 personnes réunies ce matin sur la pelouse de la Maison-Blanche. On y revient avec Begasikoura.
Le chef de l'exécutif américain et son épouse ont salué le pape à son arrivée à la Maison-Blanche pour un accueil formel. Dans son allocution, le président a dit au souverain pontife que l'excitation entourant sa visite aux États-Unis est due non seulement à son statut de pape, mais surtout à ses qualités personnelles exceptionnelles.
You remind us that in the eyes of God, our measure as individuals,
vous nous rappelez que pour Dieu, notre valeur en tant qu'individu et notre valeur en tant que communauté n'est pas définie par rapport à la richesse, au pouvoir, au statut ou par rapport à la célébrité. Promouvoir la justice et combattre les inégalités et veiller à ce que chaque être humain ait droit à vivre dans la dignité parce que nous sommes tous faits à l'image de Dieu.
En ses commentaires, le pape a fait écho des propos du président disant que la tolérance est un objectif clé de l'Église aux États-Unis.
American Catholics are committed to building a society.
Catholiques américains se sont engagés à bâtir une société qui soit à la fois tolérante et inclusive, à sauvegarder les droits des individus et des communautés, à rejeter toute forme d'injustice et de discrimination.
François a également évoqué la question quelque peu controversée du changement climatique, affirmant qu'il a été encouragé par les efforts de M. Obama pour réduire la pollution de l'air.
It seems clear to me also that climate
Il me semble clair également que le changement climatique est un problème que nous ne pouvons plus laisser pour nos générations futures.
Les deux hommes ont tenu un tête-à-tête dans le bureau ovale. Les responsables de l'administration ont tenu à préciser qu'Obama et le souverain pontife ne vont pas discuter de questions politiques, mais uniquement des sujets d'intérêt commun. Au programme du pape ce mercredi également, la canonisation d'un missionnaire espagnol du XVIIIe siècle qui a évangélisé ce qui est aujourd'hui la Californie.
Voilà, c'est avec une grande ferveur religieuse que les catholiques des États-Unis accueillent le souverain pontife dans sa tournée américaine. Félicité Nyongere vit à Portland, dans l'état du Maine.
Je suis vraiment très, très heureuse, je suis très, très contente d'accueillir cet apôtre de Dieu, parce que c'est un invité de marque pour l'Église catholique entière. Surtout pour l'Église catholique aux États-Unis. Nous sommes alors très, 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 très contents, vous ne pouvez pas imaginer. Parce que nous voyons en lui un symbole de Dieu dans l'Église. Et nous sommes alors très honorés de le recevoir ici aux États-Unis.
Voilà, c'était donc Félicité Nyongere qui vit à Portland dans l'état du Maine.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, plein feu sur la visite historique du pape François aux États-Unis. Un voyage rempli de symboles et de défis dans un pays où la population catholique est en baisse et marquée par les excès du capitalisme et les injustices sociales. Quel doit être, selon vous, le message du pape aux Américains? Est-ce l'occasion également d'avoir une pensée spéciale pour l'Afrique avant son voyage en novembre? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h10.
Dans le reste de l'actualité, dans le nord-est du Nigeria, plus de 20 personnes ont été tuées dimanche dans une explosion sur un marché de la ville de Monguno. C'est ce qu'ont affirmé aujourd'hui des témoins et l'agence de secours du Nigeria.
Le gouvernement du Burundi exclut toute négociation avec des dirigeants de l'opposition et de la société civile poursuivis pour insurrection. Bujumbura rejette ainsi l'appel à un dialogue n'excluant personne lancé par l'Église catholique burundaise.
Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC fait ses adieux. Martin Kobler a dressé devant la presse congolaise un bilan mitigé de son mandat.
C'est un moment très très difficile pour moi de partir. Ma dernière conférence des Nations Unies ici, j'ai commencé au mois d'août, je crois 2013, avec ma première. Je ne dis pas adieu aujourd'hui, je dis au revoir. Au revoir parce que je suis sûr plus tard je vais revenir dans ce pays parce que je suis tombé en amour. Je pars avec trois sentiments. Le premier sentiment, c'est un sentiment de satisfaction. Le deuxième, un sentiment de fierté. Mais aussi le troisième sentiment, alors c'est un sentiment de frustration. Nous avons la période électorale devant nous, qui sera peut-être difficile. Les frustrations, ça concerne premièrement la coopération maintenant avec les FRDC parce que c'est bloqué.
Martin Kobler de la MONUSCO.
Sommet d'urgence ce mercredi à Bruxelles sur la crise migratoire en Europe. Le bloc des 28 a mis l'accent sur la nécessité d'apporter de l'aide aux réfugiés dans les camps se trouvant dans les pays voisins de la Syrie. C'est en Turquie, Jordanie et au Liban que les aides doivent être apportées rapidement pour que les réfugiés ne soient pas tentés de venir en Europe où ils risquent leur vie, a déclaré le président français François Hollande.
Le pape François poursuit sa tournée aux États-Unis. Nous voulons simplement signaler qu'il se prononcera demain dans un discours historique au Congrès avant de se rendre aux Nations Unies et à Philadelphie en fin de semaine. Toujours dans le domaine religieux.
Le Hajj, le plus grand rassemblement religieux annuel des musulmans, se déroule actuellement en Arabie Saoudite devant plus de 2 millions de pèlerins participant à une journée de prière dans la vallée du mont Arafat, au Hajj, à la Mecque. Le grand moufti d'Arabie Saoudite a appelé les adeptes de l'islam à travers le monde à s'unir contre les éléments égarés, y compris les groupes extrémistes tels que l'État islamique, qui veulent reléguer cette religion à l'âge de l'ignorance.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Cher Rubin Dorcil et Morgane Guériac, en votre compagnie, place au dossier du jour. Première escale, Gabi.
République du Congo. Le président Denis Sassou Nguesso a annoncé la tenue d'un référendum sur une nouvelle constitution qui lui permettrait de briguer un nouveau mandat. Pour l'opposition, c'est un coup d'État constitutionnel. Idriss Fall a recueilli la réaction de Guy Romain Kinfoussia, président du Front de l'opposition à Brazzaville.
Alors déjà, le fait que M. Sassou demande à la Cour constitutionnelle s'il a le droit de faire un référendum, la Cour constitutionnelle lui a dit que c'était oui, mais la Cour constitutionnelle n'est pas habilitée à répondre à des questions simplistes. La Cour constitutionnelle statue sur la constitutionnalité des modifications proposées par le gouvernement ou par le Parlement. Donc déjà là, il y a une tricherie. Deuxièmement, M. Sassou ne peut pas se donner le pouvoir ni les moyens de modifier une constitution qu'il a fait élire, sauf s'il nous dit qu'il démissionnera ipso facto avant de faire cette consultation populaire, parce qu'il ne peut pas couper l'arbre sur lequel il est assis. Voilà le premier commentaire qu'on veut faire. Dans tous les cas, nous savons que c'est pour un troisième mandat qu'il fait toute cette gymnastique et nous pensons qu'il ne pourra pas franchir le cap du troisième mandat, tout simplement parce qu'il n'y a pas droit. Il a terminé, il finit le 14 août 2016. Il lui reste à organiser une bonne élection pour élire son successeur.
Et qu'est-ce que vous allez faire en tant qu'opposition ?
Nous allons faire ce que les peuples qui veulent se libérer du joug des dictateurs vont faire. Vous apprécierez sur les actions qui vont être posées d'ici là.
C'est-à-dire un scénario à la Burkinabé, comme ce qui est arrivé à Blaise Compaoré ou bien ?
Nous ne pouvons pas, d'entrée de jeu, nous comparer au Burkinabé, mais les mêmes causes produisant les mêmes effets, il est tout à fait possible que nous nous retrouvions demain dans une situation analogue.
On écoutait Guy Romain Kinfoussia, président du Front de l'opposition à Brazzaville.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse, voafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Au Burundi, l'appel de l'Église catholique à un dialogue n'excluant personne est salué par les autorités de Bujumbura. Selon le porte-parole Willy Namitwe, le gouvernement prépare déjà un dialogue qui devrait être inclusif. Cependant, la participation de la coalition anti-troisième mandat de Pierre Nkurunziza au dialogue n'est pas envisagée. Joint par Roger Kalala, le porte-parole Willy Namitwe.
Le gouvernement du Burundi reçoit positivement cet appel, parce que cet appel s'inscrit dans la politique même et l'orientation du gouvernement du Burundi qui veut un dialogue national et inclusif.
Vous voulez un dialogue national inclusif, mais vous n'êtes pas prêt à dialoguer avec ceux qui combattent le président Pierre Nkurunziza.
Alors, que ceux qui combattent se montrent. Est-ce que ceux qui combattent qui créent l'insécurité au Burundi ou qui assassinent nos simples citoyens et jettent leurs cadavres dans des rivières, est-ce qu'ils se montrent? Pour l'instant, c'est des gens qui se cachent. Eh bien, avec des criminels, il n'y a pas de négociation ou de dialogue possible. Avec des criminels, c'est la justice.
Mais le président Pierre Nkurunziza avait promis un dialogue ouvert avec ses adversaires. La coalition anti-troisième mandat ne peut pas être parmi les membres qui peuvent participer à ce dialogue.
Si vous avez bien suivi le conseil des ministres d'hier, penché sur la question du dialogue, nous allons vers la mise en place d'une commission nationale qui va s'occuper de ce dialogue qui est inclusif et qui doit se passer dans notre pays. Le gouvernement n'a jamais fermé les portes du dialogue. Mais tout simplement, il y a des gens qui, au lieu d'aller aux élections, préfèrent se cacher derrière une politique de négociation en créant l'insécurité pour pouvoir entrer dans certains postes comme à l'Assemblée nationale et au gouvernement sans nécessairement passer par des voies démocratiquement connues qui sont les urnes.
Mais qui pourra être invité parmi les membres de l'opposition?
Aujourd'hui, nous avons une quarantaine de partis politiques, un seul parti au pouvoir et d'autres partis d'opposition. Nous avons plusieurs milliers d'organisations de la société civile. Nous avons une population qui est éparpillée dans 119 communes. Donc, tout le monde sera convié à ce dialogue afin que le dialogue soit le plus inclusif que possible.
Le porte-parole du gouvernement burundais, Willy Nyamitwe.
République démocratique du Congo. Les États-Unis se disent préoccupés par la condamnation le 18 septembre de quatre militants du groupe Lucha, lutte pour le changement, à 6 mois de prison par le tribunal de grande instance de Goma. Les autorités accusaient les 4 jeunes de désobéissance lors d'une manifestation le 7 avril dernier contre la détention de 2 autres membres de Lucha. De telles arrestations, détentions et condamnations d'activistes politiques ont un effet dissuasif sur la liberté d'organisation, de rassemblement et d'expression en RDC, souligne un communiqué du département d'État. Dans un contexte de préparation aux élections en RDC, Lucie Lamont a recueilli la réaction de Juvin Kombi, porte-parole de Lucha.
Je pense que cette période préélectorale agite les acteurs politiques et c'est ce qui fait que certains de nos membres sont en train d'être arrêtés parce que à la Lucha, nous essayons de dénoncer certaines entrevaleurs qui ne peuvent pas permettre qu'une liberté d'expression soit garantie dans notre pays. Et je crois que les politiciens voyant cela, ils s'acharnent vraiment contre tout celui qui peut, n'est-ce pas, dénoncer certaines choses qui se font à l'encontre des droits de la population parce que c'est pour eux une opportunité d'utiliser toute la réalité pour, n'est-ce pas, rester au pouvoir.
Qu'est-ce que vous pensez de la réaction des États-Unis par rapport à cette condamnation?
Je crois que c'est la voix de tout le monde. Actuellement, nous avons, oui, entendre beaucoup d'organisations se prononcer, beaucoup des États se prononcer par rapport à la condamnation de nos collègues jusqu'ici. Et je suis tout à fait d'accord avec dans la mesure où ils demandent que nos amis, n'est-ce pas, ne devaient pas être traités de cette façon. Nous-mêmes, d'ailleurs, nous avons publié un communiqué pour dire que c'est pas normal que le ministère public n'ait pas d'argument convaincant, puisse le juge puisse se prononcer à notre défaveur. Et c'est pour cette raison que nous avons même acté appel, parce que nous sommes contre ce jugement et nous l'avons attaqué en appel pour que ce jugement soit cassé. Ce n'est pas juste que les jeunes gens en revendiquant et dénonçant certaines injustices dans le pays, on puisse les qualifier à des personnes qui portent atteinte à la sécurité publique.
Est-ce que vous pourriez expliquer ce que le mouvement fait concrètement pour obtenir la libération de ces condamnés?
En fait, jusqu'ici, ils sont libres à Goma. Ils sont libres, ils bénéficient d'une liberté provisoire, c'est-à-dire qu'ils restent dans leur situation actuelle. Et le temps que nous attendons appel, en attendant que la Cour d'appel puisse nous donner un jugement d'acquittement comme nous l'espérons.
Juvin Kombi est le porte-parole du groupe Lucha à Goma en RDC.
Retrouvez La Voix de l'Amérique en RDC sur Radio Mungano à Beni, au Nord Kivu, sur 95.10 FM.
Coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs avec Anastasie Tudiech.
Après Dakar, c'est Paris qui reçoit le prochain Forum économique de la francophonie le 27 octobre prochain. L'objectif est clair, mettre en avant le potentiel de la langue française en dehors de la sphère uniquement culturelle. Dans les années qui viennent, l'Afrique sera le principal pourvoyeur de francophones avec près de 54,7% des locuteurs, devant l'Europe et ses 37% seulement. Nos confrères du Point Afrique le soulignent. Parmi les terrains où se jouera le sort de la francophonie économique, il y a ceux des métropoles, tellement la croissance urbaine sera forte. Selon la Fondation Africa France, c'est 1 milliard d'urbains, soit 600 millions de plus qu'aujourd'hui, qu'il faudra installer en Afrique dans les prochaines décennies. Akiwumi Adesina, le président de la BAD, la Banque africaine de développement, veut allumer l'Afrique. Dans une interview accordée à Jeune Afrique, le nouveau patron de la BAD précise ses priorités. L'accès à l'énergie et la modernisation de l'agriculture. Pour lui, sans électricité, pas de développement. Sans énergie conventionnelle ou renouvelable, pas de santé, pas d'éducation, pas de croissance économique à 2 chiffres. L'Afrique dispose d'un potentiel exceptionnel, insiste-t-il, Il faut maintenant le développer. La Banque centrale sud-africaine a maintenu son taux d'intérêt inchangé à 6%, suivant la décision prise par la Réserve fédérale américaine la semaine dernière, et ce malgré la récente dépréciation du rand sud-africain. Les mauvais chiffres de la croissance sud-africaine au second trimestre sont dus au ralentissement de l'activité en Chine. La Banque centrale a mis en garde contre un risque de hausse de l'inflation.
La Minute Éco avec Anastasie Tudiech.
Dernière page, l'actualité sportive présentée ce soir par Nicolas Pineau. Salut Nicolas.
Bonsoir Chérubin.
On commence par le tirage au sort de la Coupe du Monde des clubs.
La FIFA a procédé aujourd'hui au tirage de cette compétition qui aura lieu en décembre prochain au Japon. Le vainqueur de la Ligue africaine des champions entrera en lice contre Auckland ou le vainqueur de la J-League. Le FC Barcelone, tenant de la Ligue des champions en Europe, affrontera le vainqueur du match entre les Mexicains d'América et le futur champion d'Asie. Ce sera en demi-finale.
La FIFA face à la justice, quelles sont les dernières, Nicolas ?
La justice suisse a autorisé l'extradition du Vénézuélien Rafael Esquivel vers les États-Unis. Et ce, dans le cadre, vous vous en souvenez, de l'enquête pour corruption visant la FIFA. C'est ce qu'indique un communiqué de l'Office fédéral de la justice à Berne. Monsieur Esquivel, arrêté le 27 mai dernier à Zurich, est incarcéré depuis en Suisse. Il a 30 jours pour faire appel de cette décision auprès du tribunal pénal fédéral.
Les Jeux Olympiques de 2016, parlons-en.
Les cérémonies d'ouverture et de clôture des JO d'été à Rio de Janeiro coûteront moins que celles de Londres en 2012. Dans un pays qui traverse une importante crise économique, le directeur des cérémonies du comité local d'organisation a affirmé que la conjoncture ne pèserait pas sur les festivités, dont l'objectif a toujours été, selon lui, d'éviter le pompeux. Le coût total des Jeux de Rio approche les 12 milliards de dollars, soit un peu moins que Londres 2012 et surtout beaucoup moins que Pékin 2008.
Le sport à tout âge.
Un guiret japonais plus que centenaire est entré au pas de course dans le livre Guinness des records. Tenez-vous bien Gabi, ça donne de l'espoir. Il a établi le record du monde du 100 mètres des plus de 105 ans, adressant dans la foulée un clin d'œil à Usain Bolt, aux côtés duquel il rêve de courir un jour. Son nom, retenez-le bien, Hidekichi Miyazaki, surnommé Golden Bolt, en référence à l'homme le plus rapide de la planète. Il a parcouru le 100 mètres à Kyoto en 42 secondes et 22 centièmes.
Merci Nicolas Pineau.
Salut les amis, ici Roger Montoux sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, international music, comédie, country music. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montoux, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-92-40. Je répète, 225-58-92-40. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Et avant de partir, nous rappelons que le putsch est terminé au Burkina Faso. C'est le général Gilbert Diendéré du régiment de sécurité présidentielle lui-même qui l'a annoncé. Et les autorités de la transition sont maintenant rétablies dans leurs fonctions à Ouagadougou, 6 jours après ce coup d'état de la garde prétorienne du leader déchu Blaise Compaoré. C'est la fin de cette édition. On remercie Lionel Gaïma qui a dirigé la mise en onde, assisté d'Alfredo Santos à la console. Présentation Morgane Guériac et Chérubin Gabi Dorsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voaafrique.com.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore
sans oublier sur ondes courtes. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.